Radio Okapi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Joseph Olenganko. Il est président du parti politique Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, FONUS en sigle. C'est un parti politique de l'opposition. Monsieur Olenganko, c'est un plaisir de vous recevoir dans notre studio de Radio Okapi.
Moi aussi.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien, merci.
Vous êtes originaire du Sankuru dans le Kassai Oriental. Vous êtes né un certain 24 décembre 1963 à Kinshasa, marié, père de 5 enfants, je ne me trompe pas?
Pas du tout.
C'est à Kinshasa où vous avez passé votre enfance?
Oui, oui, c'est à Kinshasa. J'ai passé mon enfance, oui.
Puis vous êtes allé aux États-Unis pour les études universitaires.
Et après Kinshasa, il faut dire que j'avais fait mes études dans le Bandundu à Kinshasa et au Bas-Congo. Donc au Bas-Congo, j'étais à Boma. Et à l'internat, et puis dans le Bandundu, j'étais beaucoup plus précisément à Bukangalonzo, où j'étais aussi à l'internat, et à Kinshasa, j'étais à l'Institut Technique Industriel de la Gombe.
Comment
à l'internat aussi.
Alors comment vous expliquez ces changements des milieux pour vos études?
Bon, parce que les études, en fait, il faut dire que c'était à l'internat, hein, et puis bon, à chaque fois, il y avait les parents qui pensaient qu'il faut aller tel endroit parce que c'est beaucoup plus ici, beaucoup, ils avaient leurs intérêts. Bon, moi, j'étais quelqu'un qu'on guidait, qu'il faut y aller, là, c'est bon, et, etc. Comme aux humanités, j'avais fait les études techniques, hein, c'est-à-dire je fais la technique industrielle.
Et qu'est-ce qui vous a poussé ou qu'est-ce qui vous a motivé à aller poursuivre vos études à l'étranger?
C'est juste après mon diplôme d'État, j'ai eu la bourse de fonds de tiers au développement. Et c'est cette bourse-là qui nous a conduit à l'université. On a commencé par Bruxelles, à Europea University, où on était ensemble avec beaucoup de collègues, par exemple Rifé Soubaï, Willy Kabengele, et puis Molongia, qui est maintenant la Banque Centrale, etc. Donc, on était à Europea University, et une fois que je terminais là, et puis on est parti aux États-Unis. C'est-à-dire, Europea University, c'est une branche des universités américaines à Bruxelles.
Et là, vous avez fait quel genre d'études?
Je fais les relations internationales.
De la technique aux relations internationales, comment expliquer ça?
Il n'y avait pas, il faut dire que c'est vrai, mais vous savez, l'université, de toutes les façons, j'allais faire le droit. Mais après, j'ai embrassé les relations internationales, ce sont des réalités, c'est la bourse que j'ai obtenue et je devrais suivre cette discipline-là. Et puis en plus, c'était même ma vocation en fait. Hein.
Vous avez passé beaucoup de temps aux États-Unis?
Beaucoup du temps, oui.
Vous n'avez pas changé de nationalité?
Non, écoute, non, pas du tout. Mais vous savez, c'est ce qu'il y a la mode ici, en fait. Hein. On pense que quand on a fait longtemps à l'étranger, absolument, on doit changer de nationalité. Mais moi, je crois qu'il n'y a plus une nationalité plus sacrée pour moi que la nationalité congolaise.
Vous êtes fier d'être congolais?
Très fier même. Très fier, et chaque fois dans mes prières, c'est la partie que je remercie à Dieu de m'avoir fait congolais.
Alors, Joseph Olenganko, vous êtes en politique congolais. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la politique?
Mais ce qui m'a poussé à faire la politique, il faut dire que la politique pour moi c'est une vocation. C'est un métier auquel depuis mon enfance j'ai beaucoup apprécié. Quand je lisais l'histoire, je voyais par exemple tous ceux qui étaient de la voie des sans voix. Je me suis dit un jour, il faut que je sois parmi ceux qui sont de la voie des sans voix, c'est-à-dire les gens qui parlent pour la cause des autres. Et il faut dire aussi que en étant aux études aux États-Unis dans les bibliothèques, c'est là où j'ai découvert réellement la grandeur de ce pays, sa richesse, tout ce qu'il avait à son sein. Et je me suis dit pourquoi peut avoir un pays comme ça et avoir toutes les souffrances qu'on nous impose. Et puis, il faut dire, à 89, je suis venu ici. Et puis, avant, à l'époque, il y avait l'Andé. Juste avant 89, il y avait d'abord 86. Je suis venu en vacances. À cette époque-là, il y avait Nguanda qui était l'administrateur général de l'Andé. J'ai été arrêté à l'aéroport avec des cassettes qui étaient contre le régime. Ça m'a été donné pour introduire ici au Congo. Et puis ces cassettes-là...
Une petite question de curiosité qui vous a remis ces cassettes?
Bon, des cassettes, on a vu une organisation en fait. Hein. On a vu une organisation au niveau des États-Unis qui devrait absolument mettre à genoux M. Mobutu à l'époque. Parce que pour nous, en fait, le freinage du Congo, ça s'appelait Mobutu. Et à cette époque-là, j'ai amené des cassettes qui étaient anti-révolutionnaires, anti-Mobutu. On m'a arrêté immédiatement, on m'a conduit de l'aéroport, d'Njili, et toute la famille qui était venue me m'accueillir, tout le monde a fui. Hein. Et on m'a arrêté, et puis on m'a conduit directement au Jôle de l'Andé sur l'avenue 3Z. Et quand j'étais dans cette avenue-là, j'ai trouvé des agents des affaires étrangères qui étaient avec moi à prison. À cette époque-là, il y avait Papa Lokwa, Papé Kofo, papa, je trouvais des militaires angolais qui étaient aussi en prison. Par exemple, Domingo aussi, c'était un colonel et puis un général comme ça. Donc, ce sont des gens avec qui on était dans ces îles. Et je vous dis que ce sont des moments les très durs. Et l'ambassade des États-Unis a fait pression. Ils ont fait énormément de pression. Et puis, quelques mois après, je crois, j'ai fait 6 mois. Et puis après, j'ai été libéré.
Et donc, de l'aéroport, vous êtes allé directement en prison.
Directement à l'Andé. Et à l'époque, c'était Nguanda qui était chef de l'Andé. Et j'étais là, la pression internationale, surtout, particulièrement des États-Unis. Et ils m'ont libéré. Et de là, directement, ils m'ont mis dans l'avion pour retourner aux États-Unis.
Voilà. Et donc, vous avez commencé votre combat depuis les États-Unis.
Donc, mon combat, je n'avais même pas, tout ce que je te raconte là, j'avais entre 18 et 19 ans. Je n'avais pas.
Vous étiez trop jeune, quand même.
Voilà. Donc, c'est un combat auquel on a sacrifié toute une vie. Vous savez, le Congo, pour moi, c'est l'une des plus belles femmes du monde. C'est le premier que j'ai pris en mariage.
Est-ce que vous aviez conscience de ce que vous étiez en train de faire ou bien vous étiez manipulé?
Non, c'est des gens qui vous poussaient à faire ça. À 18 ans, on ne peut pas être manipulé, vous savez. Et j'avais conscience. Moi, je vous ai dit que dans mes germes, j'ai le sang congolais. Et je me suis dit, les restes de ma vie, je donnerai à ce peuple, je donnerai à ce pays si beau, si grand, si riche, mais très pauvre. Donc, moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut, face à une injustice, peut manipuler l'autre. Donc, on ne peut pas être manipulé par l'être humain avec qui on subit les mêmes injustices. Je crois que ça peut passer.
Depuis 89 que vous avez commencé votre combat politique, nous sommes en 2012 aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous avez pu obtenir dans votre combat?
Mais vous savez, ici, quelque chose de positif, madame, ce que je dois vous dire, en fait, hein, on n'a plus le même peuple qu'on avait il y a quelques temps. Il y a quand même l'émergence de conscience, il y a la conscience de plus en plus le peuple qui se prend à charge. À l'époque, quand on parlait même de Mobutu, à mal ou en bien, on vous dit non, taisez-vous, les miroirs des oreilles. Et même dans le bus, il n'y a personne qui osait parler le mal du maréchal Mobutu. Ceux qui disent Dieu, on ne le voit pas, mais eh ben ici au Congo, les dieux qu'on voyait, c'était Mobutu. Parce qu'en fait, on les sortait des nuages, même à la télévision. C'est pratiquement ce que je vois aujourd'hui. On est en train de copier plus ou moins, mais ça n'a plus le même impact. Parce qu'à la télévision,
il y a quand même un changement.
Il n'y a pas assez de changements. Vous savez, les changements actuels, c'est comme les coquilles et les Pepsi. Donc, c'est juste l'emballage.
Alors, Joseph Olingankoy, en 2006, vous avez été candidat à la présidence de la République. Est-ce que vous étiez sûr de remporter ces élections?
Vous savez, madame, c'est que je veux vous dire une chose. La personne peut être sûre, mais le système est là. En 2006, j'étais candidat. Et comme vous le savez, nous étions dans l'apprentissage de la démocratie. Et être sûr, non. Il n'y a que Dieu qui est sûr de quelque chose. Mais c'était une aventure auquel tout le monde osait y aller. Même ceux qui sont au pouvoir actuel en fonction comme président de la République, il n'y a personne qui est sûr en allant aux élections. Jusqu'au jour où on te proclame président de la République. On a essayé, ce qui est important, et qu'en 2006, nous nous sommes battus, et le peuple sait réellement ce qui s'est passé.
Vous êtes président d'un parti politique, FONUS, c'est un parti de l'opposition. Est-ce que ce parti a une base?
Bon, moi je crois que vous avez qu'à demander à 2006 sur quel cadre on était parti aux élections. Vous demandez aussi à la Monique, et dans les rapports de la Monique, vous savez la Monique, c'est encore des gens qui sont plus ou moins partout à travers le pays. Bon, dans l'ère statistique, les FONUS était le seul parti auquel on trouvait des drapeaux partout sur l'ensemble du pays. Hein. Donc, c'est tout à fait une autre chose, madame. Vous savez, le FONUS, c'est un parti organisé. Ce n'est pas des partis comme vous le voyez aujourd'hui.
On dit que c'est un parti de tété là.
Pas du tout. De toutes les façons, tous ceux qui sont autour de moi, vous ne trouverez personne de ma tribu. Et je ne sais pas pourquoi, mais depuis que j'ai commencé ma carrière politique, madame, je suis beaucoup plus fortement soutenu par les Bandundu. Ça, je dois vous l'avouer. Je suis soutenu par le Bas-Congo et d'autres provinces. Donc, ça n'a rien à voir. De toutes les façons, à cette époque-là, quand on faisait des partis politiques, il n'y avait rien de tribu. Et même nous qui faisions politique à cette époque-là, il faut le dire que j'étais désavoué par la famille. J'avais le soutien de ma pauvre mère et qui m'a pratiquement assisté, encouragé dans tous mes approvisionnements, madame. Vous savez, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai fait 46 fois de prison, madame. Il n'y a pas une prison au Congo, Olingankoy n'a pas été. C'est-à-dire, on a enduré. On a été humilié, on a enduré. On a vécu tout ce qu'on a vécu. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est découragé à ne pas continuer notre combat. Pas du tout.
C'est quoi votre combat? Vous recherchez quoi?
Mon combat, c'est la liberté des Congolais. C'est la dignité. C'est le respect de l'être humain. C'est le bénéfice de leur richesse. Comment voulez-vous que Dieu donne une richesse à un pays comme le Congo, mais les hommes qui sont dans la direction de ce pays privent à ce peuple cette richesse-là? Donc, les Congolais aujourd'hui, ils vivent en dessous des minimums, madame. Alors, moi, face à ça, je dis aux Congolais, assemble comme un seul homme, qui nous soutiennent, jusqu'au jour où nous allons réaliser les rêves, à ce que nous ayons un Congo de dignité et les Congolais de dignité. Et alors moi je crois que face à ça, les Congolais ont besoin des dirigeants qui peuvent réellement relever les défis.
Et c'est vous,
c'est une humiliation qui est continuelle.
C'est vous, ces dirigeants, c'est vous, Joseph Folenga-Nkoy.
Je vous dis sincèrement, madame, vous savez, dans ce pays, il y a deux personnes qui ont une histoire. Il y a Étienne Tshisekedi, qui a lutté, qui est le père de la démocratie de ce pays, et il y a Joseph Folenga-Nkoy, et dans ma génération, il n'y a personne qui a mon histoire.
Et en parlant d'Étienne Tshisekedi, on dit que vous utilisez le nom d'Étienne Tshisekedi pour vous donner un peu de la valeur.
Non, mais
pour,
au niveau de Folenga-Nkoy, au niveau de Folenga-Nkoy, comment il peut utiliser le nom d'Étienne Tshisekedi pour se donner de la valeur? Parce que Folenga-Nkoy a une valeur. Et Folenga-Nkoy, c'était un produit politique émanant de Tshisekedi. Quelle valeur moi je vais chercher encore? C'est l'homme qui m'a formé, c'est avec qui je fais tout mon combat jusqu'à ce jour. Alors moi je vais chercher le valeur comment? Vous savez madame, ce sont les périphériques, les gens qui ne sont pas dans la maison qui cherchent le valeur. Moi, Folenga-Nkoy, j'ai un nom dans ce pays, j'ai un combat que je menais dans ce pays, j'ai une histoire qui a une abondance. Je crois que mon histoire, madame, si ça pouvait être un seau d'eau, aujourd'hui, ça laisse diverser. Et c'est presque maintenant plein. Donc, j'ai une histoire par rapport à mon âge. Et vous savez, les gens, quand ils attendent Folenga-Nkoy, Folenga-Nkoy, ils me donnaient quelqu'un qui avait la génération de Mobutu, de Tshisekedi, parce que le nom est plus grand que la personne.
Il paraît que votre nom est très connu parce que vous êtes agitateur.
Non. Mon nom est connu parce que je menais un combat pour donner des réponses aux besoins de la population. Et mon histoire est claire, madame. Vous savez, ceux qui font l'agitation, ce sont des gens, par exemple, le régime actuel, ce sont des agitateurs professionnels, je vais vous le dire clairement. Quand on regarde, par exemple, avant les élections, vous savez, les élections, c'est le peuple qui doit choisir. Eh bien, quand le peuple se trouve offusqué, leur droit, c'est de manifester. C'est garanti par la Constitution. On a refusé toutes manifestations ici, ok? Bon, dernièrement, j'ai vu que, bon, il y a eu l'église catholique interposée qui avait organisé une marche contre le Rwanda. Eh bien, c'est là des agitateurs, madame, les gens qui refusent à ce que le peuple exerce ce droit. C'est ça l'agitation. En fait, un droit est bon parce qu'il est à sa faveur et elle est mauvaise quand il n'est pas à sa faveur. Et même quand je regarde toutes les marches qui se font aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous faisions à l'époque, madame. Vous savez, nous, on a arraché. On a arraché, nous, on ne nous a pas donné l'autorisation. On a arraché cette autorisation-là. Constitutionnellement, la Constitution nous reconnaissait, madame. Vous savez, la liberté d'un peuple, c'est quelque chose qui émane de Dieu. Ça n'émane pas d'une personne ou groupe d'individus qui sont sur la terre des hommes ici. Mais la liberté, la dignité d'un peuple, c'est Dieu qui l'a donné. Mais aujourd'hui, on nous dit non, il y a des personnes et Dieu dans ce pays. S'ils pensent le contraire, nous, on n'a pas droit à penser autrement. Et on doit penser comme, et donc, alléluia, amen. Moi, par exemple, Folenga-Nkoy, madame, vous savez, il y a une chose que Dieu a omis, qui n'a pas mis dans mes organes d'être humain, c'est la peur. Parce que moi, je connais pas la peur. Même quand les gens disent, on a peur qu'on a peur. Moi, je n'ai jamais su comment la peur fait dans l'organe humain. Et qu'est-ce que c'est la peur?
Vous n'avez peur de rien.
Et quand
rien.
Vous regardez, par exemple, dans la Bible, madame, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a un vocabulaire que le Seigneur a omis de mettre dans la Bible, c'est la peur. Parce qu'il sait que la peur, c'est l'ennemi de l'homme.
Radio Capi, grand témoin.
Alors, Joseph Folenga-Nkoy, pendant la Deuxième République, vous étiez très, très actif hein, sur la scène politique. Vous donniez des mots d'ordre à la population pour des journées villes mortes et ces mots d'ordre étaient suivis. Aujourd'hui, quand vous lancez ces mots d'ordre, ce n'est plus suivi
non,
comme
non,
avant.
Non, non, pas quand je lance ces mots d'ordre parce que je n'ai jamais lancé les mots d'ordre, madame. Vous savez pourquoi? C'est simple, madame. Écoute, à cette époque-là, on avait Mobutu. Et on a lutté, moi je suis né dans Mobutu madame, hein, faut pas oublier ça. On a lutté pour nous, on pensait que Mobutu était le premier mâle congolais. Oh ben, et après les changements de Mobutu, on s'est rendu que voilà, le moment est venu pour aller au paradis. Mais effectivement, à vouloir fuir les vents, on a embrassé la tempête. Eh bien, on s'est rendu compte, il a fallu laisser un temps pour que le peuple découvre ce régime. Il a fallu un temps pour que le peuple découvre que non, on est dans le mobutisme sans Mobutu. L'homme politique, c'est celui qui canalise l'aspiration de la population. Et si on avait commencé avec les mêmes actions, eh bien, notre combat n'aurait pas de définition, madame. C'est la simple raison que nous sommes tués juste pour faire voir à la population que eux-mêmes découvrent les dirigeants actuels et qu'ils fassent la comparaison entre le régime de Mobutu et ce que nous connaissons aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un Congo des non-États. La preuve en est que vous regardez, par exemple, ce qui se passe à l'est du Congo. Ça fait 11 ans, 12 ans, 15 ans depuis que ces gens sont au pouvoir. On ne fait que crier Rwanda, 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 Rwanda. Même un enfant qui ne connaissait pas le mot Rwanda connaît le Rwanda. Toutes les marches que nous organisons ici pour essayer de dire non à la balkanisation du Congo, non à ceci, non à cela. On ne fait que la publicité du Rwanda, madame. Vous savez, s'il y a un agent publicitaire aujourd'hui, ça s'appelle le Congo et les régimes actuels. Quand il y a un problème d'État, madame, on appelle tous les spécialistes du pays pour raisonner et identifier la cause. Et qu'une fois qu'il identifie la cause, on aligne des personnes appropriées pour éradiquer le mal et de manière définitive.
Mais c'est
alors, vous voyez ce régime ici? Moi, je pense, madame, vous savez, on peut tromper une personne ou deux. On ne peut jamais tromper tout un peuple. Il y a un mal ici.
Mais c'est, pour vous, c'est quoi la solution pour mettre fin au problème du Rwanda?
Vous savez, madame, on ne peut pas soigner...
Le problème est déjà là, il faut trouver des solutions.
On ne peut pas soigner la fièvre et ça s'attaque aux microbes. On ne peut pas soigner la fièvre sans s'attaquer au microbe. Tout ce qui se passe à l'est du Congo, c'est le régime actuel, madame. Vous vous rappelez des accords qu'ils ont signés il y a quelques années à Goma? Dans ces accords-là, on intègre l'armée. L'armée, c'est une branche qui doit être très disciplinée. Et vous savez qu'on reconnaît l'armée par sa discipline. Ces militaires, à les intégrer, ils vous disent que nous, on n'ira nulle part ailleurs qu'ici. Au sud, au nord, qui vous. On ne peut pas nous mettre ailleurs. Vous, chef de l'État, vous allez vous signer ces accords-là. Vous parrainez en tant que garant de la nation. Et ces militaires-là, ils vont se considérer comment? Ils sont au-dessus de la loi, madame.
Mais la solution,
le Congo est à genoux, madame.
C'est quoi la solution?
Le Congo est à genoux.
Oui, c'est quoi la solution aujourd'hui?
Madame, j'ai une expérience. Moi, Joseph Olengakoy, j'ai participé dans toutes les négociations de ce pays. Toutes les négociations, je le dis bien. S'il y en avait deux personnes, il y avait Étienne Tshisekedi et moi. S'il y en avait trois, eh ben, il y avait Étienne Tshisekedi, moi et quelqu'un d'autre. Vous pouvez vérifier dans les archives du pays. Il y a des problèmes majeurs, vous l'avez constaté. Le pays a été attaqué il y a longtemps. Il y a très longtemps. Et pendant tout ce temps, il n'y a personne de l'officiel qui avait dénoncé ça. Et ils attendent aujourd'hui pour commencer à chercher des alliés et demander que non, on est menacé. Non! Le Rwanda, c'est un État ami. L'Ouganda, c'est un État ami. Burundi, c'est un État ami.
Mais pourquoi?
Ce sont des États frères. On doit pas continuellement et tous les jours, vous allez vous créer des problèmes avec eux. Et quand tout va bien, on ne connaît pas ce que vous vous dites. Quand ça commence à aller mal, parce que les intérêts ne convergent plus sur ce que vous voulez, et vous venez maintenant, non, les pays balkanisés,
monsieur
les
peuples doivent être mobilisés.
Non, on ne se retrouve pas.
Mais monsieur Olengankoy, si le pouvoir n'a pas dénoncé ça, pourquoi vous, l'opposition, vous l'avez pas fait?
Madame, vous savez, je vais vous dire une chose. L'opposition ne l'a pas fait, mais l'opposition le dit tous les jours. Vous savez qu'il y a la peur depuis la mort de Tshiebeya. Tout le monde a peur dans ce pays.
Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas peur.
Mais on a peur, on a dénoncé, madame. Nous ne cessons de dénoncer. Madame, si ce n'était qu'à la dénonciation, aujourd'hui, le tableau de dénonciation est déjà rempli. Quand je vois, par exemple, les racontes qui se font aujourd'hui, bon, voilà, le chef de l'État a appelé les gens à la consultation. Mais ça, c'est protocolaire. Mais ces racontes politiques ne se font pas comme ça, madame.
Vous critiquez le...
Quelle que soit la longueur de la nuit, madame, tu peux en être sûr que le jour apparaîtra.
Voilà, vous critiquez le régime actuel, monsieur Olengankoy. On sait qu'à un moment, vous avez été aussi aux affaires. Vous avez géré le ministère de transport. Votre bilan était négatif.
Je ne critique pas le régime actuel. C'est le peuple, y compris moi-même, qui critique le régime actuel.
Bah oui,
il faut
critiquez.
Pas. Ces critiques-là ne les ramenez pas, Olengankoy. C'est ce que je dis ici, madame. C'est tout le peuple.
Parlons de votre gestion, monsieur Olengankoy.
La gestion de monsieur Olengankoy, madame. Après les accords de Saint-City, où j'étais la seule homme politique qu'on a remercié dans ces accords-là, des accords officiels, madame. Et je l'ai dit ici dans le micro, je suis le seul homme politique auquel le président Thabo Mbeki à l'époque, le président Massiré à l'époque, à Saint-City, dans le discours officiel, a remercié notamment Joseph Olengankoy comme personne. Deuxièmement, partant de ces accords, nous avions dit de mettre un gouvernement d'union nationale. J'étais dans le gouvernement d'union nationale, madame, ensemble avec beaucoup d'autres, pendant la transition.
Dans les 12 mois,
madame, de mon gouvernement, et vous le savez, ils nous ont révoqué pour des raisons soi-disant, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Tu as déjà vu des ministres
vous
révoqués?
Vous avez détourné de l'argent?
Tu as déjà vu des ministres révoqués, madame, ça a passé au Parlement pour se justifier. Tu as déjà vu des ministres en acquise avoir fait ceci, avoir ceci, mais on ne les traduit pas en justice. Il n'y a jamais eu de justice jusqu'à aujourd'hui. On a dit non, Olengankwa avait détourné les
vous
bus.
Avez détourné les bus.
D'abord
le ministre,
D'abord le ministre ne tourne, le ministre des Transports ne peut même pas tourner des bus parce qu'il n'est pas l'acheteur. L'acheteur des bus de l'État, c'est le ministre des Finances.
Mais une ces fois bus-là acheté, sont partis où?
Une fois acheté, il vient avec les clés, donne au ministre des Transports. Alors ici, madame, une confusion. Alors, il croyait que les mensonges peut-être, madame, vous savez, les mensonges, c'est les mensonges. La vérité, c'est la vérité. Alors, aujourd'hui, la personne qui a détourné ceci, qui a détourné cela, il est libre comme l'air. Je suis le seul homme politique qui est parti voir le procureur de la République pour lui demander quelles sont les charges à ma porte. Il n'y avait rien. La vérité, c'est quoi, madame?
Mais vous êtes
il
quand
voulait,
même parti avec
la
les
vérité,
bus.
Qu'il voulait récupérer la concession de OTCZ. Cette concession qui est à côté du palais du peuple, du côté de la voie du Zaïre, qui est aujourd'hui au Père Victoire. C'était ça la vérité. Et le Père Victoire, madame, les actionnaires qui sont là dedans sont connus. Tu vois, un régime, c'est bon. C'est le système des régimes qui profitent. Mais quand c'est la famille du régime qui profite, madame, ça n'a pas une longue vie.
Et aujourd'hui, donc, la concession... On vous a accusé injustement.
Mais la concession auquel ils ont dit, ils s'est approprié de la concession. C'est cette concession qu'ils voulaient prendre.
Et les bus?
Mais les bus, ce n'était même
vous
pas
avez
le bus.
Récupéré
ce
les
n'était
bus,
même
ça.
Pas le bus d'Olengankoy, madame. Vous savez, c'était le bus d'un homme d'affaires. Et je savais que ces gens n'achèteront jamais de bus parce qu'on était dans un gouvernement des requins où chacun voulait dribbler l'autre. Donc, je le savais, moi. Donc, aujourd'hui, madame, vous vous êtes rendu compte, 10 ans après, qu'aucune des accusations qu'ils ont accusées à ces gens-là, en tout cas, Olengankoy en particulier, il n'y avait rien. Et puis, vous savez, madame, Olengankoy est venu au gouvernement avec tout. Je crois que les gens du ministère des Transports sont là. Vous pouvez leur demander. Tout ce qui est dans ce ministère-là, ça a été acheté avec l'argent privé de M. Olengankoy. Je l'ai dit ici devant vous, à commencer par tous les équipements qui se trouvent dans le bureau du ministre jusqu'au niveau du huissier. Et je l'ai déclaré à Conseil des ministres et j'ai déposé tout ça là au niveau du Parlement. Donc c'était pour des raisons politiques et électorales, c'est pour des raisons auxquelles, vous savez, c'est une mafia politique organisée pour monter des coups à tel, à tel, à tel, à tel, pour essayer de déséquilibrer tel et tel autre, afin de se maintenir au pouvoir, c'est tout. Je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. C'est peut-être à travers cette émission que le peuple comprendra la vérité. L'armée, ça fait autant d'années. Qu'est-ce que vous aviez fait comme bilan? Les services de renseignement, qu'est-ce que vous les avez donné comme moyen? Les services, c'est ceci, les services, c'est là.
Réformer une armée, ça prend du temps, M. Joseph Olengankoy.
Bon, supposons ça
c'est
prend du temps.
C'est pas en 2 ou 3 ans qu'on va réformer une armée.
D'accord, ça fait combien d'années ils sont au pouvoir? 13 ans. À 13 ans, on ne peut pas réformer une armée? À 15 ans, on ne peut pas réformer une armée? Donc, vous voulez qu'on les donne 100 ans pour qu'ils forment une armée, mais 100 ans, tout le monde sera déjà parti, hein, madame?
En 2011, vous vous êtes présenté aux législatives.
Bon, madame, vous savez, les élections de ce pays, on s'est présenté à Tiango, auquel on a été élu massivement, on était le plus élu de Tiango, et que vous savez, les élections actuelles, madame, c'est ce qui énerve. Madame, vous savez, si vous pouvez être Dieu pour connaître dans les cœurs de chaque Congolais la manière dont nous souffrons, pour l'avenir de ce pays, il n'y a que Dieu qui saura ce qui va se passer. Madame, vous savez, aujourd'hui, le pasteur Ngoï Moulunda a rendu le plus mauvais service à ce pays. Et je peux même vous dire, s'il y a des députés élus, c'est peut-être une petite portion de l'opposition. Tu étais de véritables élus, la majorité, madame. Mais ce sont des députés nommés.
Et même ceux de l'opposition.
Par la volonté de Ngoï Moulunda.
Même ceux de l'opposition qui se retrouvent à l'Assemblée aujourd'hui.
Je vous ai dit qu'il y a une portion de l'opposition qui ont été réellement élus, madame. Et la majorité de ceux qui se disent opposition. C'était une opposition infiltrée qui était au besoin à la solde du pouvoir actuel. Madame. Nous sommes des caïmans. Il ne faut pas croire que nous, on a peur de qui que ce soit. Non, nous, on a peur que des dieux.
Parlons de l'opposition politique congolaise, une opposition toujours divisée lorsqu'il faut prendre des décisions ensemble. Où en est-on avec l'élection du porte-parole de l'opposition aujourd'hui?
Bon, vous savez, cette histoire de l'opposition, il faut dire une chose. Hein. C'est une opposition qui a été déjà infiltrée. Depuis. Et des deux, le porte-parole de l'opposition, moi je ne sais pas, tu me parles de quel porte-parole. Moi je suis sur tout à fait une autre philosophie. Vous savez qu'Étienne Tshisekedi a été élu président de ce pays. Dans ma philosophie, madame, telle que vous me voyez là en face de vous. Donc, partant de cette idée, je ne me trouve pas pour aller occuper les postes de porte-parole de l'opposition. C'est logique. Et dans ça, M. Vital Kamerhe avait appuyé Étienne Tshisekedi. Tous les restes étaient aussi derrière Étienne Tshisekedi. Alors, tu sais, madame, c'est là où vous voyez comment ce pouvoir est tenté de manipuler les gens. Ce même pouvoir va aller donner les moyens à d'autres personnes pour les dire non, allons occuper le poste de porte-parole de l'opposition. Mais il savait, le même pouvoir là savait que ça n'ira pas jusqu'au bout. Ok? Alors, maintenant, est-ce qu'on peut à la fois dire qu'on est musulman? On ne mange pas les porcs, mais on boit la sauce du porc. Est-ce que c'est normal?
Est-ce qu'il faut comprendre par là que les hommes politiques congolais se battent pour leurs propres intérêts?
Mais ici,
que
madame,
pour
mais
les intérêts mais de, comme du
vous,
peuple?
Comme on l'a toujours dit, ici, il n'y a pas crise politique et économique, il y a crise d'hommes, madame. Il y a crise d'hommes, il y a crise de leadership. Il y a des hommes politiques aujourd'hui qui ne disent pas la vérité à la population.
Joseph Olengankoy, il y a certaines personnes qui disent que vous faites de la politique avec haine.
Haine de quoi? Moi, je peux pas, madame, un homme politique, quand tu fais la politique avec la haine, ce n'est pas un homme politique. En politique, madame, il faut transformer ses ennemis.
Haine par rapport amis. À votre révocation?
Non! Il faut transformer. Non, pas du tout, madame. Olengankoy est parmi les rares ministres qui est venu au pouvoir. J'avais tout, madame. Tout. Alors, tout. On peut vérifier. Moi, j'ai des maisons un peu partout, madame. Mais vous ne trouverez pas une seule maison que j'ai achetée avant de, après que je sois au gouvernement ou dans le gouvernement. Tout se trouve avant. Je crois que c'est eux-mêmes
qui... Avec quel moyen vous avez acheté ça?
Non, mais écoute, madame. Et moi, j'étais très organisé. Comment? Tout le monde savait comment je vis ici. Ok, madame. Moi, je crois que les histoires, ceux qui sont venus ici sans moyens sont connus. Ça, c'est l'histoire. Mais Olengankoy, il faut pas oublier, et je le dis haut et fort, je suis d'une très bonne famille. Et j'avais presque tout ce qu'il me fallait. Donc, je n'ai pas besoin de tricher avec moi-même. Je ne tricherai jamais avec les Congos.
Pourquoi on vous appelle Soso?
Ben, Soso, c'est, moi, je crois que c'est tout à fait normal, madame. Vous savez, il y a un adage que j'ai dit aux Congolais ici, que moi, je suis Soso. C'est-à-dire, vous savez, être l'oiseau, et le poulet, il y a des philosophies différentes. Vous savez, madame, un oiseau, son rôle, dès qu'il trouve à manger, il descend sur la terre. Il mange à côté des poulets, il mange. Dès que c'est terminé, il s'envole. Il s'en va. Mais le poulet, il reste avec vous. Le poulet vous accompagnera dans la maison. Ça veut dire, c'est quelque chose, c'est un message que j'ai donné aux Congolais. Et chaque personne est en train de décoder. Vous savez, même Jésus, le fils de Dieu, auquel moi je crois, madame. Quand tu parlais avec les gens, c'est par des adages. C'est comme ça que vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, le Nouveau et l'Ancien Testament ont continué à l'interpréter, à décoder tous les jours. Qu'est-ce que le Christ a voulu dire par là?
Bon, certaines personnes pensent que ce sauce-là, c'est votre fétiche.
Non. Mais madame, vous savez, moi, mon fétiche, c'est le Congo. Et je suis profondément chrétien. Je crois beaucoup à ce peuple. Je connais, madame, je crois fortement. Si vous, peut-être, vous connaissez la séquence d'Olengankoy sur une autre phase. Mais vous savez, madame, moi j'ai étudié avec une des bourses que j'ai eu vers la fin de mes études. C'est la bourse de l'église méthodiste aux États-Unis, madame. Toute ma famille, on est chrétienne, madame. Mais vous savez, les gens nous connaissent beaucoup plus dans une autre phase parce que mon père, c'était un très grand chef coutumier.
Mais
connu.
Justement, l'occasion ici de montrer
alors,
notre
gens,
face
les
de
gens
Joseph Olengankoy.
Ils disent, bon, peut-être les chefs coutumiers, ce sont déjà... Non, madame, moi je suis chrétien. Et mon plus grand fétiche, c'est le Congo. Vous savez, j'aime et je suis attaché à ce pays. Ça, c'est des valeurs auxquelles je ne peux pas vous dire exactement combien je peux remercier l'Éternel de m'avoir fait congolais. Je vous l'avais dit. Moi, mon problème aujourd'hui, madame, c'est mon attachement à ce pays. Et si les Congolais pouvaient comprendre et identifier le mal, au lieu de soigner la fièvre, il faut attaquer les microbes. Mais les microbes de ce pays est connu.
Alors, une petite question, Joseph Olengankoy.
Je vous en prie, madame.
Il vous arrive d'écouter de la musique?
Bien sûr.
Quel genre de musique vous écoutez?
Non, mais écoute, moi, la musique congolaise, hein, vous savez, j'aime beaucoup la musique congolaise, j'aime la musique traditionnelle. Ça, ce sont des valeurs auxquelles moi, je ne peux pas me départir.
Beaucoup plus la musique traditionnelle, j'ai l'impression.
Non, beaucoup plus la musique congolaise en général.
Bon, la musique traditionnelle, elle est aussi congolaise, quoi.
Oui, mais en général, c'est la musique congolaise, c'est-à-dire tous ces musiciens que vous voyez,
anciennes, nouvelles, générations, voilà. Vous aimez écouter.
Je les écoute tous, et puis ça me fait énormément plaisir, vous savez, c'est le moment de détente qu'on a en les écoutant.
Yeah.
J'espère que cette musique a fait plaisir à tous ceux qui nous suivent en ce moment dans le Sankuru, dans la province du Kasaï oriental.
Radio Kapi, grand témoin.
L'invité des grands témoins aujourd'hui est Joseph Olengankoy. Il est homme politique congolais et président du parti politique FONUS. C'est un parti politique de l'opposition.
En 2016, vous avez des ambitions de vous représenter à la magistrature suprême.
Vous savez, 2016, madame, aujourd'hui nous sommes à 2012. 2016, ça c'est la volonté de l'Éternel. Ça appartient à Dieu. À 2016, vous me demanderez, vous me poserez cette question, je vous dirai quoi. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever la population de la souffrance actuelle. Essayez de voir quel est le moyen qu'on peut faire, parce qu'on ne gouverne pas un peuple mort. On gouverne un peuple vivant. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour alléger la souffrance de la population? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Madame, je vous dis ce
qui
se passe.
Mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui êtes dans l'opposition? Vous critiquez le régime en place.
On ne peut rien faire, madame. En tout cas, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'est pas au pouvoir. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de mobiliser la population. Tout se base sur la corruption. Quand vous voyez une image à faveur de ces régimes, madame, c'est la corruption.
Depuis longtemps que la corruption existe dans ce pays.
Non, pas depuis longtemps, madame. La corruption, ça fait 13 ans.
Pendant la Deuxième République, on parlait aussi de corruption.
Madame, est-ce que vous savez que même une fièvre a des degrés? C'est-à-dire, on peut dire, on met le thermomètre, on dit non, la fièvre est à 46. On dit c'est normal. 47, ça commence à augmenter, etc. Alors, si la corruption est état, eh ben, aujourd'hui, depuis que ce régime est là, eh ben, on est parti de 46. Aujourd'hui, c'est à 40. Alors, à 40, c'est la mort. Parce que quand ça accède à 41, c'est fini. On n'inspire plus. Et moi, je crois que quand vous parlez de la corruption, tout le monde entier, madame, le monde entier sait que ces régimes, c'est la corruption. Essayez d'aller dans les hôtels qui sont ici. Allez trouver les expatriés. Ils vont vous dire ce qu'ils sont tentés de raconter dans leur démarche. Mais comment un pays, toute la vie, l'existence d'un pouvoir, uniquement pour entretenir de mauvaises relations avec ses pairs? Moi, je ne crois pas que ça, c'est une bonne politique.
Joseph Olengankoy, comment se porte votre parti politique aujourd'hui?
Le parti politique, ça va très bien, madame. Vous savez, nous sommes dans une phase de restructuration du parti. On est en train de réorganiser le parti, mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut.
Parce qu'avant, il n'y avait pas les personnes qu'il fallait à la place.
Non, c'est-à-dire à chaque fois, vous savez, en fait, à chaque fois, même à l'église, madame, on change. On change des apôtres. C'est-à-dire, à chaque moment, et il faut absolument voir que nous sommes dans telle période, il faut aligner des personnes appropriées. Et je crois que cette structuration, on est en train de faire aujourd'hui en tenant compte aussi de l'émergence de la femme.
Alors, on dit qu'en RDC, les partis politiques sont liés à leur président. Aujourd'hui, si Joseph Olengankoy quittait les FONUS, le parti risquerait de disparaître.
Non, mais écoutez, pas en RDC. Madame, les gens racontent des histoires en RDC, en RDC, en RDC. Citez-moi un pays où tu connais un parti qui n'est pas lié à l'histoire de son président. Cite-moi un pays au monde. L'histoire est toujours liée à quelqu'un. Nous ici, on se dit chrétien. En tout cas, moi, je suis lié à Jésus-Christ.
L'histoire,
Jésus-Christ disparaît, comme il a disparu, à un temps, dans les trois jours auxquels il est mort,
le parti est lié à quelqu'un, mais lorsque voilà. cette personne disparaît, le parti continue à vivre. Mais contrairement à chez nous, lorsque le président quitte
non,
le parti, c'est
lié. Non, parce que le président du parti, ce sont des donateurs dans le parti. Ce sont les gens qui mettent leurs moyens au profit de l'humanité. C'est parce que c'est quelque chose que lui a créé. Ok? Et quand il disparaît, madame, la personne qui vient n'a pas peut-être le même enthousiasme, le même vocation. Et vous savez
c'est
qu'ici...
C'est parce que vous ne préparez pas la relève.
Non, mais la relève, c'est lié aux moyens, madame. On ne prépare pas aussi les gens à avoir les mêmes moyens que moi. Ça, c'est Dieu. Vous savez? Et c'est lié. Par exemple, je te donne un exemple. Les partis politiques devraient être financés aux élections. Mais il n'y a aucun moyen, aucun parti politique a été financé en dehors du PPRD. Ok? Alors, dites-moi, dans cet, un environnement comme ça, oh, la loi est à deux poids, deux mesures, vous allez faire quoi? Mais ce qui est vrai, madame, et vous pouvez en être sûr, que le jour où il n'y aura plus ce régime, mais je croyez-moi, madame, les Congos vont accéder dans les voies de droit. Sur toutes ces formes et ces formes.
Mais quand Mobutu était au pouvoir, on a entendu ce même discours. Le jour où Mobutu ne sera plus au pouvoir, les choses vont changer.
Mais madame, vous avez dit ça, mais nous n'étions pas Dieu, madame. Je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous, on croyait fuir les vents, on a embrassé la tempête.
Peut-être
que dit, nous, on croyait que bon, le plus mauvais, le plus sanguinaire, le plus ceci, le plus cela, c'est Maréchal Mobutu. Mais moi, je t'ai dit ici, madame, je suis passé à un avec et moi, je suis né dans Mobutu. Alors moi, on me mettait à la tête comme quoi Mobutu est le plus mauvais. C'est après que je me suis rendu compte que non, ce n'est pas tout ce qu'on nous disait, que Mobutu était plus mauvais. À vouloir fuir les vents, on a embrassé la tempête.
Peut-être que vous aussi, quand vous serez au pouvoir, ça sera pire que maintenant.
Mais justement, c'est ça un rêve qu'il faut que ça arrive pour que vous viviez à ce moment-là. Moi, je suis certain, madame, vous ne pouvez pas savoir combien je vais prier pour toi pour que vous viviez à cette époque-là et que vous ayez le même micro pour me dire que M. Lengankoy, à cette époque, vous avez dit ça. Où est-ce que nous en sommes?
Alors, Joseph Lengankoy, lorsque vous n'êtes pas dans vos activités politiques, comment vous passez votre temps?
Écoute, il faut dire que quand je ne suis pas dans mes activités politiques, je m'occupe de ma famille. Donc, ma femme et mes enfants, ils sont en vacances, on répare quelque part, on revient, etc. Donc, je m'occupe de l'éducation des enfants. Et vous savez, c'est ce qui est plus fondamental et c'est ce que nous allons léguer au Congo. C'est nos enfants, nos petits-enfants, de génération à génération. Moi, personnellement, je m'occupe de mes enfants et je fais le maximum, madame. Hein. Je fais tout ce que je dois faire pour que vraiment mes enfants se retrouvent. J'ai fait tout ce que je dois faire dans l'éducation, dans l'orientation. Et de temps en temps, je passe mon temps au sport et à certains contacts avec des amis nationaux et extérieurs.
Vous vivez avec votre famille ici?
Bon, il faut dire que dernièrement, on est aux États-Unis. On est pratiquement ici.
Votre famille après... vit ici, est installée ici? Parce que la plupart de nos politiciens, ils envoient leur famille vivre à l'étranger et puis... Et ils sont ici, ils nous font croire qu'ils se battent pour le peuple congolais.
Bon, vous savez, madame, quand l'homme politique, même la population comprend tout ça, l'homme politique n'a pas le même risque que la population. Et tout leader est protégé. Quand vous regardez même autour de Jésus, il y avait une protection. Mais lui était fils de Dieu, madame. C'est pour vous dire que quand les politiciens envoient les enfants et à l'étranger, c'est pas parce qu'au Congo, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas de meilleures écoles. C'est par rapport à la sécurité, madame. Je vous donne un exemple. Quand vous voyez, par exemple, la plupart des autorités ici, hein, ils viennent avec, à l'école maternelle, mais ils ont à peu près 14 gardes du corps. Est-ce que vous pouvez vous imaginer pourquoi? C'est parce que, il sait que non, tout le monde ne peut pas être mon ami. Il peut y avoir des ennemis. Et je préfère protéger mon enfant. Moi, je crois que c'est une tradition en Afrique, mais en Europe, vous ne trouverez jamais ça. C'est parce que nous sommes encore dans un pays de non-droit. Alors moi, je crois, madame, je dois vraiment encourager nos frères et sœurs de l'Est. Je dois le dire que nous nous occupons d'eux et nous allons faire tout ce qui est dans nos pouvoirs à ce que vraiment le mal soit éradiqué. Et qu'aujourd'hui, ils doivent connaître le vrai mal du mal. Parce que si tout le temps nous devons nous tromper les cibles, eh bien madame, je crois que on va connaître un pays qui va un jour... À chaque fois, quand il y a des problèmes majeurs, on n'appelle pas les politiciens. Quand il y a des dossiers importants, on ne dit rien. Mais quand il y a un problème au niveau de l'Est, auquel eux-mêmes ont garanti la paix, ils ont garanti l'agriculture, ils ont garanti ceci, il n'y a rien, madame.
Alors, un mot à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi, partout en RDC, même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui sont contents de vous suivre sur Radio Okapi. Qu'est-ce que vous leur dites?
Eh bien, écoute, surtout les Congolais de la diaspora, je tiens à les saluer et à saluer leur courage et les demander de se mobiliser comme un seul homme pour faire attendre les raisons de notre pays. Moi, je crois qu'ils ont la possibilité de le faire parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du pays où il y a toutes les menaces nécessaires. Alors, à cette diaspora, je les rends un hommage mérité et public, madame. À tout l'ensemble de notre peuple, et surtout, à particulier le peuple des Sud du Nord Kivu, qui aujourd'hui, toute une vie, ces peuples, ils sont tout le temps dans les rues, dans la cachette, dans ceci, entre les feux, tout ça. Ils ne peuvent pas savoir combien nous les aimons. Et nous allons faire tout ce qui est de notre possible, madame, pour que nous allégeons la souffrance de ces peuples-là. Je demande aussi aux institutions des Nations Unies qui sont dans notre pays de faire leur travail et de ne pas faire ce qui n'est pas lié à leur travail. Et moi, je crois que c'est ce qui est logique. Si le Congo, c'est un État, moi, je crois que la Monique n'est pas ici. Pour chaque fois qu'il y a un problème, c'est la Monique qui doit se battre. Et si c'est une ville est prise, non, c'est parce que la Monique a fui. La Monique n'est pas venue pour... Je ne connais pas une force des Nations Unies qui vient pour mourir pour un pays, hein, depuis que l'histoire est histoire. Alors, nous devons prendre conscience de cela. Alors, s'il n'y a pas ça, c'est qu'il y a une faiblesse de nos dirigeants. Je crois que le peuple congolais doit se mobiliser comme un seul homme et identifier le mal de notre pays.
Joseph Olenganko, je vous remercie.
C'est moi que vous remercie de m'avoir donné cette opportunité.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Joseph Olengankoy, homme politique congolais et président du parti politique FONUS. C'est un parti politique de l'opposition. Merci à Willem Lungamba qui est à la technique. Au micro, Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.